Bonjour. Pour, contre ou au moins interrogatif, c'est le moment de vous exprimer sur le projet d'extraction de lithium à Échassières et de ses deux autres sites à Saint-Bonnet-de-Rochefort et Montluçon. À partir de ce lundi et jusqu'au 7 juillet, c'est le débat public sur ce sujet d'une importance capitale pour le territoire. Vous pouvez vous exprimer sur le site débatpublic.fr et participer aux réunions. La première, c'est demain à Moulins. Il y en aura aussi à Échassières le 26 mars et à Montluçon le 4 avril, le président de la commission du débat, Mathias Bourissou, nous en parlera. Des inégalités qui persistent dans tous les domaines, en particulier niveau professionnel. C'est le constat dressé par les syndicats vendredi à Montluçon lors du rassemblement pour les droits des femmes avec des témoignages comme celui de Florence qui a toujours dû se battre pour tenter de se faire entendre dans la grande distribution. On l'écoutera. Elle vient compléter une offre de services pour tous les âges dans l'historique bâtiment de la Charité. La microcrèche de Lavaux-Sainte-Anne a été inaugurée samedi. Le maire Samir Triki est dans le journal. Et puis le temps du jour, dans l'ensemble, c'est plutôt gris avec un espoir d'éclaircie dans l'après-midi. La production de lithium dans l'Allier, qu'en pensez-vous? Dès ce lundi et jusqu'au 7 juillet, la parole est à vous, à tous les habitants et même tous ceux qui veulent s'exprimer là-dessus. C'est parti pour le débat public, peut-être bien le plus important dans l'histoire de l'Allier. Le président de la commission du débat, Mathias Bourissou.
C'est un débat public singulier, pour une bonne raison, c'est que c'est un projet industriel sur un territoire rural, et qui se compose en fait en trois sites différents à l'échelle du Sud Allier. Donc nous, notre travail, c'est d'arriver à travailler à toutes les échelles territoriales avec une première phase de lancement du débat public le 12 mars à Moulins, avec une grande réunion publique d'ouverture du débat. Pendant 4 mois, on aura des rencontres régulières qui permettront à la fois de traiter transversalement un peu tous les sujets qui traverse ce débat, mais aussi des réunions thématiques spécifiques sur des enjeux, autour des enjeux de transition énergétique, autour des impacts environnementaux, autour des enjeux de ressources en eau, autour des questions liées par exemple à l'aménagement du territoire.
Tous les sujets seront abordés venant de tout le monde, pour ou contre ce projet, et le tout aura une influence sur le porteur du projet Imerys.
On rédige un compte-rendu. Il fait état de manière très exhaustive de l'ensemble des arguments qui ont été échangés pendant le débat, quoi qu'il en soit du statut des personnes qui s'expriment. Derrière, le maître d'ouvrage est obligé de tirer enseignement de ce qu'il a entendu le débat, sachant qu'on lui livrera un certain nombre de questions et de recommandations, nous, au travers de ce compte-rendu. Et il va devoir rendre compte de la décision qu'il souhaite prendre, poursuivre ou pas son projet, de quelle façon, en s'appuyant sur les éléments qu'on aura présentés dans le compte-rendu. Une étude a été faite par la CNDP. Il se trouve que 65% des projets qui passent par un débat public sont modifiés de manière plus ou moins substantielle au sortir du débat.
Et vous pouvez vous renseigner et vous exprimer dès aujourd'hui sur Internet, sur débatpublic.fr. Les membres de la commission du débat iront aussi sur le terrain avec des réunions publiques, dont les premières demain à Moulins, jeudi à Gannat, le 26 mars à Échassières, le 27 à Saint-Bonnet-de-Rochefort et le 4 avril à Montluçon. Il y aura aussi des stands et informations sur les marchés, dans les bureaux de poste et maisons France Service. Le Cher est bien large et bien rempli depuis quelques jours, mais c'est surtout l'Allier qui menace de déborder. Il y a donc une alerte à la crue sur le département qui est placée en vigilance jaune. Il y a conseil d'agglomération de Montluçon ce soir avec 69 questions à l'ordre du jour et au programme, entre autres, le budget 2024 et le vote de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, revue de nouveau à la hausse, comme on l'avait déjà annoncé. Il sera aussi question de liaison douce entre Pierre-Leroux et la Verrerie et du pôle tennistique de Saint-Jean. On y reviendra évidemment plus en détail et réaction demain dans le journal. Des travaux à vous signaler ces jours-ci. D'abord, je le rappelle, toute cette semaine, il y a un chantier entre La Crozes à Uriel et Crevant à Domera, avec circulation alternée sur la D916 et fermeture de la D340 rue de la Pérelle avec déviation mise en place. Et à Montluçon, en plus des chantiers en cours, il y a des travaux de gaz qui débutent ce lundi dans les rues Théodore de Banville, d'Amiette et de la Paix jusqu'au 28 juin et rue Bridier jusqu'au 17 mai. Les inégalités ont la peau dure et les femmes sont encore bien loin du compte dans la vie de tous les jours, les relations sociales et de couple et la vie professionnelle aussi. Entre a priori, discrimination, conditions de travail plus compliquées et salaires en dessous de ceux des hommes au même poste, c'est tout ce constat que certaines femmes sont venues témoigner vendredi à Montluçon sur la place Pican à l'appel des syndicats Sud, FSU et CGT. Parmi elles, Florence qui travaille dans la grande distribution.
J'ai appris un métier de boucher et quand je suis arrivée, qu'on m'a embauchée, on ne m'a pas voulu tout de suite me payer boucher. Ouvrier pro, comme ils disent, parce qu'il a fallu que moi, en tant que femme, je fasse mes preuves. Et il a même fallu que je me batte parce qu'on ne voulait absolument pas. On considérait une femme, elle n'est pas autonome, il faut toujours un homme pour l'aider. Et voilà, donc moi, ça m'a énormément contrariée. Et aujourd'hui, dans la grande distribution, on embauche majoritairement des femmes parce que c'est des contrats précaires, des 25 heures, des 30 heures. Donc obligatoirement, ça pose toujours énormément de problèmes. Et puis comme je dis, la hiérarchie est souvent masculine. Donc effectivement, quand on arrive, on est une petite bonne femme et vous avez un responsable qui parle un peu haut. C'est aujourd'hui par exemple mon directeur qui des fois parle fort. Et j'aimerais savoir comment il s'est comporté devant les agriculteurs. Sûrement pas de la même façon.
À noter, côté action syndicale, des dates de mobilisation à venir, le 19 mars pour la fonction publique notamment et le 26 mars pour les retraites. Les sports, rugby, deux déplacements, deux victoires hier pour nos équipes locales. En fédéral 3, Montluçon l'a emporté à Saint-Junien 23-18. Victoire aussi en R3 de Vaud à Dôme-Sioule 31-25. Handball en national 3, la réserve du BSM est allée battre Saint-Flour 24-23 et conforte ainsi sa deuxième place du classement. Football en régional 1, Montluçon n'y arrive plus en ce moment. Deuxième défaite d'affilée, la troisième en quatre matchs et encore à domicile, les Montluçonnais se sont inclinés 2-1 face à Clermont. Saint-Jacques, 10e du classement. Au classement, justement, Montluçon voit la réserve du Puy revenir à égalité à la première place et le 3e Velay à 4 points. De son côté, Domera a vu son match à Saint-Flour reporté. Chez les filles, défaite de l'entente Domera à Montluçon-Saint-Victor au tir au but en 8e de finale de la Coupe Laura Foot contre le Clermont Foot. Plus d'infos et résultats dans l'actu foot de Reynald à 7h45 sur RMB et sur radio-rmb.com. Enfin, 12 berceaux, dont 2 pour des enfants ayant un handicap, du personnel adapté et aux petits soins et un environnement chaleureux. Les bouts de choux de Marie-Charlotte ont de quoi être heureux dans leur micro-crèche de la Vaux-Sainte-Anne. La nouvelle structure, en fonction depuis la fin d'année dernière, a été inaugurée samedi et vient compléter une offre intergénérationnelle à la charité. Le maire lavotois, Samir Triki.
C'est un espace, la charité, qui est un lieu intergénérationnel. Il a été pensé comme ça, il a été voulu comme ça, et il est en train de se concrétiser. Après la maison de retraite, après le centre social rural où ont lieu toutes les activités intéressantes, vivifiantes pour les personnes âgées, mais également pour les enfants, en attendant l'ouverture d'un pôle santé qui faisait partie également de nos projets. Voilà l'ouverture de la micro-crèche. C'est un lieu qui est cosy pour certains, qui est confortable pour d'autres, qui est rassurant pour les enfants, mais c'est rassurant également pour les familles.
À noter que la micro-crèche qui fait direction commune avec celle de Prémia, je le rappelle, a coûté 858 000 euros, quasiment entièrement subventionné par l'État, la région, le département et la CAF. C'est la fin de ce journal.